jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, il est auteur, compositeur et interprète. Depuis tout petit, le piano tient une place très importante dans sa vie. Il y en a d'ailleurs toujours eu un dans sa maison, on y reviendra. Au début des années 2000, il se fait remarquer par le public et la critique avec ses premières chansons qu'il écrit, chante et joue sur scène. Au fil de ses albums, il choisit ceux et celles qui l'entourent, des ingé-sons, des mixeurs, mais aussi ses partenaires de duo comme Camélia Jordana. Son idée de la création musicale le pousse à travailler pour les autres, à composer pour des poèmes, produire des images, et c'est aussi ce qui l'amène sur scène aujourd'hui avec son dernier album.
Bonjour Babix.
Bonjour.
Bienvenue dans les Midis de Culture.
Merci.
Babix, votre dernier album, Une maison avec un piano dedans, voici l'allusion de début d'émission, est sorti à l'automne dernier. On va revenir sur le piano bien sûr, mais vous portez cet album sur scène pour plusieurs représentations dans les prochains mois, avec une scénographie assez spectaculaire. Est-ce que vous pouvez nous la décrire d'abord ?
Alors, je porte pas ce spectacle tout seul parce que on le fait pratiquement à quatre mains.
Pas au piano.
Mon complice n'est pas au piano, mais il s'agit d'Adrien Mondeau, qui est la moitié du duo Adrien M et Claire B, qui sont des plasticiens qui moi me fascinent depuis très très longtemps. Et Adrien travaille énormément, enfin est programmeur informatique et crée des espaces réellement. C'est très difficile à décrire parce que c'est un univers qui est tellement onirique et il faudrait être très geek pour que je puisse vous le décrire. Mais en tout cas,
au
voilà.
Au moins le dispositif sur scène.
Bah, lui est en bord de scène. Un vidéoprojecteur zénithal m'inclut dans une espèce d'espace visuel très très onirique et pixelisé. Et Adrien crée les images en direct, ce qu'on appelle, je crois, peut-être du mapping. Je ne sais pas si c'est ça.
C'est possible.
J'ai déjà entendu ce mot quelque part. Il me semble que c'est à peu près ça. Et voilà, et on s'est retrouvé avec Adrien. Moi, je le connaissais, je l'avais rencontré il y a 25 ans dans un lieu de débauche avignonnais en marge du festival, où il était, il est jongleur et il a vraiment une poésie qui m'avait stupéfaite déjà à l'époque. Entre-temps, on s'était perdu de vue et j'étais devenu très fan de ce duo Adrien M et Claire B, jusqu'à ce qu'une amie qu'on a en commun me dise, mais tu sais qu'en fait, Adrien M, c'est Adrien du Delirium Cigane. Du coup, je viens de situer
le lieu de débauche. Moi, je me demandais quand même.
Voilà, il faut que... Allez-y. Et voilà, et on s'est retrouvés à la faveur d'une cueillette de noix dans la Drôme. Et on a eu l'idée de travailler ensemble parce que lui voulait travailler sur le geste musical. Et moi, j'étais en train de préparer cet album de piano.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, vous êtes donc au milieu de cette scène. Il y a ces images qui sont projetées sur l'ensemble de la scène, sur vous compris. Mmh. Et il est face à vous, Adrien Mondeau.
Ouais.
Et il y a véritablement, alors que vous êtes sur vos doigts sur le clavier du piano, lui, il est sur les doigts de son ordinateur. Et il y a quelque chose qui se passe dans le regard entre vous.
Complètement. Ouais. Et puis plus ça va, plus il y a vraiment un dialogue entre nous. Au début, moi déjà, j'essayais de pas trop me foirer au piano. Puis petit à petit, je commence à me détendre et nos regards se croisent de plus en plus et je crois que l'interaction est de plus en plus forte. Et voilà.
Ça crée un univers, c'est-à-dire que quand on est dans la salle, on vous voit, vous, mais on voit un univers, j'allais dire, non, plusieurs univers qui se créent en même temps qu'on découvre vos compositions.
Ouais, tout à fait. Mais l'idée, c'était de surtout pas être... Enfin, moi, j'avais pas du tout envie de choses qui viennent raconter les morceaux et plutôt rendre pousser plus loin l'abstraction, en fait. Et l'univers d'Adrien, justement, a ça de magnifique, c'est qu'il est extrêmement immersif tout de suite, sans jamais être figuratif. Et voilà, je trouve que ça va très bien. On avait comme point de référence tous les deux, très très rapidement, le livre de Barico Novecento, pianiste, qui est ce pianiste qui joue, qui ne peut pas jouer sans avoir l'océan sous ses fesses, je cite Barico. Et donc on est parti sur cette espèce de vogage, voilà, lui avec ses images et moi avec ma musique.
Et il y a un moment où vous avez vous aussi l'océan sous les fesses, puisqu'il y a quelqu'un qui...
Exactement.
Un personnage qui nage.
C'est même Adrien lui-même, nu. Donc je me retrouve avec un homme nu qui nage sous mon piano. C'est très étrange.
Thank you. Un extrait de votre album sorti en septembre 2023, Babik, ça s'appelle Train Cajun, c'est le quatrième extrait de cet album intitulé Une maison avec un piano dedans, que vous portez donc sur scène avec Adrien M, on l'a dit, dans ce spectacle intitulé Piano Piano, qui a donc une place importante, on va y revenir. Vous avez joué au printemps de Bourges et vous serez notamment le 1er juin au Théâtre d'Antibes et puis le 16 juin prochain avec ce spectacle aux Nuits de Fourvière. À Lyon, qu'est-ce qu'il raconte ce spectacle? Il y a une forme de récit de soi.
Je crois qu'il raconte deux personnes qui se retrouvent déjà. On a essayé d'être très très honnête sur cette rencontre-là, qui était une rencontre après s'être perdu de vue pendant 25 ans. Chacun dans nos et aussi la rencontre de deux pratiques dans lesquelles je l'espère, je crois qu'on est arrivé à une forme de sérénité sur ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Donc on a voulu absolument être le plus honnête et sincère possible dans ces pratiques-là, en évitant absolument de faire événement. Voilà, ce qu'on voulait, c'était simplement une sorte de douceur comme ça de la rencontre, peut-être de fragilité aussi. Moi, je suis pas un pianiste concertiste. Je me trimballe avec le piano ou le piano me trimballe depuis toujours, mais c'est la première fois que je me retrouve à occuper la scène uniquement avec le piano pendant une heure. Adrien, c'est la première fois, je crois, qu'il faisait quelque chose tout seul sans son autre moitié, Claire B. Et donc, on était déjà, voilà, il y a eu la rencontre de ces deux fragilités, mais très assumées et même très heureux de vivre ça comme ça.
C'est une forme de modestie de dire on ne veut pas faire événement, on n'est pas des concertistes. Voilà, il y a quelque chose de modeste. On se présente à vous comme on est.
Ouais, si ça peut inspirer la modestie, pourquoi pas. Je pense que c'est surtout de la lucidité. Dans le sens où des grands pianistes, il y en a des tonnes, je me considère pas comme ça. Par contre, je considère avoir quelque chose à raconter avec le piano, sans quoi j'aurais certainement pas sorti d'album ou demandé à qui que ce soit de venir m'écouter en concert pour ça. Mais par contre, voilà, j'avais surtout pas envie de donner à voir ou à entendre ce que je ne suis pas. Et Adrien, je crois, partageait exactement la même envie, quoi. Je pense que la quarantaine aidant, on a renoncé à être des super-héros en montant sur scène et on essaye simplement d'être ce qu'on est, quoi.
Qu'est-ce que ça vous fait d'être sur scène, Babix?
Alors, c'est très mouvant. C'est très mouvant. Ça dépend tellement. C'est une telle alchimie entre le lieu, les gens, l'état d'esprit avec lequel on arrive sur scène, l'état d'esprit aussi avec lequel les gens viennent écouter un concert. Donc, il y a des fois où c'est des moments de magie incroyables. Moi, ce qui me fascine dans l'espace du concert, c'est la manière dont on peut réinventer un temps. Ça m'a toujours vraiment fasciné, ça. C'est comment une heure peut passer soit en 10 minutes, soit...
En 6 heures d'enfer.
6 heures d'enfer. Et voilà. Et puis donc, il y a des fois, ça se transforme aussi en 6 heures d'enfer. Voilà. Mais après, maintenant, c'est vrai que... Puisque ça fait maintenant, je crois, 25 ans que je fais ce métier, j'essaye d'aborder ça vraiment la manière la plus proche de ce que c'est que la vie. Donc d'arriver très honnête avec mon humeur, très honnête aussi avec mes limites, avec mes débordements. Avec, voilà, j'essaye de faire que ce soit un moment qui soit dans la continuité vraiment de la vie. Et d'ailleurs, plus ça va... plus l'idée de me préparer à un concert, j'essaie de vraiment l'éviter. Je veux que ça s'enchaîne vraiment avec ce qui s'est passé.
Comme si vous alliez acheter du pain.
Exactement. Voilà. Vous avez, j'aurais pas pris cette image, mais c'est exactement ça.
Vous mangez pas de pain, peut-être.
Mais si.
mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a 25 ans, vous avez eu envie de monter sur scène et pas juste de composer chez vous, par exemple, de faire des albums studio, de faire des collaborations, d'être compositeur pour d'autres. Il y a bien quelque chose qui s'est passé que vous avez eu envie de retrouver, oui. Au point de faire des spectacles aussi pensés qu'aujourd'hui.
Oui, je pense que la notion d'aventure là-dedans est très forte. Quelque part, je pense que je suis pas si différent de moi enfant qui me prenait pour David Croquette et
monter sur scène.
Il y a quelque chose.
Vous allez dire
ça.
David Bowie.
Non, David Croquette. et il fallait toujours partir un peu à l'aventure de quelque chose et moi l'idée de faire de la musique, c'est avant tout ça, c'est embarquer sur une nouvelle traversée. Peut-être que dans une autre vie, j'aurais aimé être skipper, mais j'aime pas être mouillé ou j'aurais aimé être grimper des hauts sommets.
Mais vous avez le vertige.
J'ai le vertige. Donc là, je suis je suis au sec, je suis à 60 cm du sol, mais je vis quand même des aventures qui méritent d'être vécues, quoi.
Des aventures musicales, parce que vous allez dans des styles très différents aussi. On a entendu quelque chose d'assez jazz tout à l'heure. Il y a aussi des influences musique du monde, le classique présent dans cet album, la musique baroque aussi. Quand vous parlez de vos influences, voilà, il y a une forme de, comment dire, d'infusion de tout ce que vous avez découvert, tout ce que vous aimez toujours d'ailleurs, ouais. Dans cet album-là.
Oui, tout à fait. Au piano, en fait, je pense que je ne suis que le pur produit de tout ce qui m'a façonné. Et ça va aussi avec cette honnêteté-là dont je parle, c'est-à-dire que je ne vais pas m'inventer, être tout à coup un compositeur contemporain qui va révolutionner le piano. C'est pas du tout mon propos. Moi, je suis plutôt héritier de milliers d'années de, voilà, alors pas milliers d'années parce que le piano est inventé il y a 300 ans, milliards d'années de musique. Et voilà, moi j'ai eu envie de faire cet album-là parce que, enfin, pour des tas de raisons, mais déjà, je butais un peu sur je voulais écrire un album de chansons et j'avais un vrai problème à ce moment-là avec les mots qui étaient beaucoup trop signifiants. Chaque mot que je mettais sur une feuille me paraissait, le sens en était grossi. Enfin voilà, j'arrivais pas à échapper au sens des mots. Donc, comme ça fait longtemps que j'écris des choses au piano, j'ai creusé cette chose-là. Et puis, j'ai eu une petite fille avec qui, donc, ce qui m'a laissé assez longtemps, plus longtemps que je l'ai jamais fait chez moi. Et voilà, c'est le son qu'elle entend chez elle depuis qu'elle est née. Et j'avais envie de documenter cette chose-là. Pour moi, c'est important de documenter la musique plus que de la représenter. Il y a quelque chose presque de l'ordre d'un enregistrement pirate où j'aimerais beaucoup que cette petite, plus tard, si elle écoute encore ce disque-là, elle retrouve le son de quand elle était petite. Et voilà, c'était plus ça.
Alors, votre fille deviendra peut-être une pianiste, elle aussi, quand elle grandira.
Eh bien.
Vous aussi, Babi, vous avez grandi avec le piano dans la maison. C'est le titre de votre album et c'est une référence aussi à votre vie, puisque votre mère était pianiste, ethnomusicologue, prof de chant. Votre grand-mère a dirigé pendant une trentaine d'années la maîtrise de Radio France. Votre grand-père était chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Et votre père aussi, mélomane. Ça veut dire que cette musique du piano, ces infusions, ces influences dont on a parlé, elles sont dans vos oreilles depuis toujours.
Ah oui, complètement. Je suis pas si différent d'un pygmée ou de je ne sais quoi qui aurait grandi. Moi, c'est le premier langage que j'ai appris, c'est la musique. Et de partout, c'est vrai qu'il y avait de la musique tout le temps, partout dans mon enfance. Et donc moi, j'ai baigné là-dedans et je Je pensais à ça l'autre fois, c'est comme les gens qui grandissent, je sais pas, dont les parents sont bistrotiers, ils grandissent sous les tables, au-dessus des tables, et puis en fait, ils savent prendre des commandes à 8 ans, et ils connaissent tous les trucs du métier, etc. Moi, ça a été la musique, quoi.
Vous avez jamais eu envie de vous rebeller ?
Je l'ai fait, mais alors...
Bah, d'avoir l'esprit de contradiction.
Si, alors, hein. j'ai raconté pendant quelques années que je voulais être acteur.
la
rébellion, quoi. Oui, ben non, mais...
J'aurais pu vouloir être prof, par exemple. Pas de musique, justement, de, je sais pas, moi, de techno.
Ouais, non. Le truc, c'est que j'ai toujours détesté l'autorité et que, les pratiques artistiques étaient un peu celles, les seules que j'avais trouvées pour pouvoir, si ce n'est la défier, la contourner. Mmh. Et donc voilà, donc déjà j'avais trouvé le bon moyen de m'extraire de l'autorité. Après je me suis rebellé de certainement d'autres manières, mais c'est vrai que la musique c'est quand même très attachant quand on s'y met. Donc j'ai poursuivi.
Avant de savoir faire du piano, l'objet piano ça représente quoi pour le Babix jeune et puis pour le Babix de 40 ans aujourd'hui?
Bah, quand j'étais petit, c'était que ma mère donnait ses leçons de piano. Pour moi, c'était comme elle était très accaparée par ça, j'en faisais souvent une cabane. C'était un endroit où je me mettais en dessous. J'en ai fait une chanson sur mon premier album. Et c'était vraiment l'endroit dont presque tout partait. Les enfants ont cette espèce de génie d'arriver à prendre n'importe quoi et d'en faire une montagne absolue. Et moi, ce piano, bah, c'était à la fois une cabane, un palais, une grotte, enfin voilà, toutes sortes de choses. Et puis, à un moment donné, bah, c'est devenu... ce que je surnomme souvent le grand orque noir, c'est-à-dire cette espèce de truc qu'il faut un petit peu quand même dompter. Et voilà, mais ça a été souvent un copain, en fait, plus qu'autre chose, parce que je me suis jamais raconté que j'allais devenir un grand pianiste, ni de classique, ni de jazz, etc. Donc j'ai jamais eu à vraiment me battre avec lui, quoi. C'est plutôt comme le chien du berger, quoi. Il peut difficilement bosser sans.
Un compagnon.
Un compagnon, voilà.
Extrait Babix de votre album enregistré avec la maîtrise populaire de l'opéra comique et qui sortira le 7 juin.
Et ce premier single déjà disponible s'appelle Oh Hearth. Qu'est-ce qu'elle dit cette chanson? D'où vient le texte?
C'est un texte de William Blake qui est un texte qui raconte la renaissance de la Terre.
William Blake, c'est un poète anglais?
Poète anglais, ouais. Qui m'a beaucoup servi pour ce disque.
Vous l'avez beaucoup exploité?
Ah ouais, ça, je l'ai rincé, je crois que je pourrais plus. et donc, dans ce disque-là, il y a en grande partie des textes de William Blake, un texte de Pasolini, un texte de James Baldwin. Et donc La Marche des Enfants, c'est un disque qui rend hommage, ou en tout cas qui fait écho à toutes les luttes que les enfants mènent de par le monde, que ce soit évidemment les luttes pour la préservation du climat, mais en temps de guerre, qui m'a été inspiré par un discours qui m'a énormément marqué, d'une jeune femme qui s'appelle Emma Gonzalez, qui avait fait un discours absolument incroyable après que son lycée ait été réduit en cendres par un tireur fou aux États-Unis et qui avait mené vraiment la bataille contre les armes à feu aux États-Unis. Et en entendant son discours, ça m'a donné cette idée de relayer ou en tout cas d'essayer de prendre ma petite part avec la musique, le cri et les révoltes et les combats des enfants en ce moment.
Et donc vous avez mélangé, réuni, si je puis dire, plusieurs de vos passions, la musique bien sûr, la composition, votre rapport à la littérature aussi, ouais. En choisissant ces textes des auteurs dont vous avez parlé, et puis en travaillant aussi avec cette maîtrise populaire de l'opéra comique. Présentez-nous ces enfants qui sont, ils sont 48, je crois. Qu'est-ce qu'ils font dans cette maîtrise et surtout comment vous avez travaillé avec eux?
Alors ils sont 48 sur l'enregistrement, mais ils sont plutôt 120, je crois, dans l'effectif total. La maîtrise populaire de l'opéra comique est dirigée par une femme absolument merveilleuse qui s'appelle Sarah Conet. On regroupe donc ces 120 enfants qui viennent vraiment de partout, à la différence de pas mal d'autres ensembles vocaux qui sont souvent un petit peu quand même réservés aux enfants de bonne famille, ne nous cachons pas. Là, il y a vraiment des enfants qui viennent de partout et qui suivent un cursus scolaire et musical, une formation musicale de, je crois, 10 ans à leur majorité, jusqu'au bac, en gros. Et quand j'ai proposé ce projet à Sarah, elle m'a tout de suite dit oui, parce qu'il y a une dimension assez politique, mais pas politisée, sur la fonction de la musique dans la société et donc dans l'éducation. Et je crois que ce que défendait cet album-là et le propos de cet album-là l'a touché. Donc elle a tout de suite accepté qu'on collabore ensemble pour cet album-là, quoi.
Ça veut dire qu'il y a eu des discussions aussi avec ces enfants, parce que vous le dites, il y a un fond, il y a un vrai message de citoyen, en quelque sorte, et citoyenne. Donc ça a fait partie aussi de votre travail, de cette collaboration.
Complètement, et puis de toute façon, c'est des choses auxquelles ils sont déjà assez sensibilisés par le travail que fait Sarah avec eux, et puis aussi les chefs de chœur à qui je rends un vibrant hommage, Clara Bernier qui a travaillé sur ce projet. Il y a vraiment cette idée que tous les enfants qui sont là termineront pas forcément par être chanteurs, mais auront traversé des questionnements, auront traversé une manière d'être ensemble, moi je reste persuadé que la musique, et surtout la musique en chœur, reste une formation exceptionnelle pour être en société. Et c'est vrai que quand on voit ces enfants ensemble, on n'a qu'une envie, c'est de mettre nos gosses là-bas, quoi, parce que ils grandissent vraiment ensemble, ils apprennent leurs différences, ils apprennent... Dans un chœur, tout le monde n'est pas au même niveau, mais on a besoin de tout le monde. C'est une magnifique expérience de démocratie et de ce qu'on appelle le vivre ensemble.
Le vivre ensemble, effectivement. Donc là, c'est un album qui sort, qui s'appelle La Marche des Enfants. Est-ce que ça sera sur scène aussi? Parce que là aussi, on a envie de vous voir sur scène avec ce chœur, avec ces 48 enfants et adolescents.
Mais j'espère qu'on refera des concerts. On a fait 2 concerts à l'Opéra Comique au mois de décembre. En fait, l'album devait sortir en décembre et pour des raisons que je vous épargnerai, a dû être reporté. Et donc, on avait fait 2 concerts de sortie d'album sans album, pour le coup, en décembre. Et on essaye de faire en sorte qu'on puisse reproduire ça. Après, c'est jamais simple d'organiser des concerts avec une structure qui, avec autant de monde, il faut de l'argent, tout simplement. Et donc voilà, on en cherche.
Le message est passé.
Les auditeurs.
Qu'est-ce que ça vous apporte, ces différentes collaborations? La première dont on a parlé avec ce plasticien, ce créateur d'images qui vous met en scène en quelque sorte, ou en tout cas qui crée cet univers autour de vous. Là, avec des enfants, mais il y a aussi d'autres musiciens, violoncelle, contrebasse, clarinette et des percussions qui vous emmènent et qui vous emportent dans ce nouveau projet avec là aussi un style totalement différent. On est presque sur, effectivement, au-delà du manifeste et du fond, il y a aussi quelque chose de très presque lyrique dans cet album-là. Vous explorez comme ça des univers qui sont très, très différents, Babix.
Oui, il y a toujours cette notion d'aventure. En vérité, si je serais incapable de me contenter d'une sorte de routine d'un album, une tournée, toujours avec mes chansons, etc. C'est vrai que le monde tout seul est très très vaste et celui de la musique l'est tout autant. Et c'est vrai que j'ai absolument besoin de satisfaire cette espèce de curiosité qui me fait lever le matin, de comprendre, d'apprendre des choses, de traverser des nouvelles expériences, de rencontrer des gens qui évoluent pas forcément dans les mêmes circuits et les mêmes milieux que ceux que j'ai l'habitude d'arpenter. Donc voilà, moi je suis toujours très très curieux de rencontrer de nouvelles personnes avec qui comprendre comment on pourrait faire de la musique ensemble, quoi.
Et qu'est-ce qui fait, selon vous, Babix, que dans la musique, ça se passe souvent d'une manière assez banale, c'est-à-dire, enfin, banalisée en tout cas, ou balisée plutôt, sur le fait, voilà, de faire le conservatoire ou une école de musique, et puis, bon, si on a des parents musiciens, c'est encore mieux, on est déjà dans le milieu, et puis après, de sortir un premier album, d'écrire un peu à côté, puis en fait, faire des concerts, puis ressortir un autre album, etc. Pourquoi ça se passe toujours comme ça?
Alors là, vous touchez une question que je me pose tous les jours. Déjà, moi, alors ça n'est que ma réponse, hein, mais déjà, je pense qu'on a réellement enlevé la musique de la vie des gens. Il fut une époque pas si lointaine où les gens chantaient ensemble, avaient une pratique quotidienne et populaire au sens vraiment que ça concernait tout le monde de la musique. Dès lors que on a mis ça dans des boîtes, des conservatoires, alors ça a toujours existé. Les conservatoires, mais c'est vrai que la pratique de la musique chez les gens est devenue, c'est vachement appauvri.
C'est-à-dire qu'on en écoute, nous, dans nos casques ou dans nos écouteurs,
mais on
n'en fait pas ensemble.
Très peu. Les gens en France sont morts de honte dès lors qu'on leur demande de chanter une chanson. Même moi, si on me demande là, chante-nous une chanson, je ne saurais pas quoi faire. On a perdu cette pratique-là, en fait. Et puis ensuite, pour ce qui est du métier de musicien, je pense que dès lors que c'est devenu réellement une industrie, on s'est coupé de beaucoup de choses, et notamment le fait que être musicien, c'est pas un chemin monolithique ne consisterait qu'en sortir des disques, être connu, puis re-être connu, rester connu. En fait, j'ai eu la chance de beaucoup collaborer avec des chorégraphes, des metteurs en scène, des cinéastes, etc. Et c'est vrai que c'est des milieux qui sont beaucoup plus poreux et où les rencontres et les esthétiques se rencontrent, se marient, se contredisent, etc. Et moi, toutes ces pratiques-là ont nourri chez moi une envie de réellement découvrir de manière bien plus large ce qu'on pouvait faire avec la musique comme point de départ dans différentes pratiques, quoi.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
One of my main reverb effects is the live chamber, what's called the live chamber, which is.
L'un de mes principaux effets de réverbération, c'est la chambre d'écho. Le principe est de prendre une pièce vide dans laquelle on installe un haut-parleur. On diffuse ce qui sort de la console dans la pièce, puis on enregistre le son de la pièce avec des micros. Et si je travaille dans les studios de Prairie Sun, c'est pour leur chambre d'écho. L'une d'elles est une petite chambre qu'on appelle la chambre Tom Waits.
The dry vocal.
Ça, c'est le chant seul.
Waits room.
Cause we know we're right where
la chambre Tom Waits.
To be.
Do that again. Okay, dry.
The days will sans écho.
Carry on. So will you and me.
Waits room.
And we know we're right where we're meant.
Vous l'avez reconnu, Babix, c'est la voix de Os Fritz, ingénieur du son américain avec qui vous collaborez depuis 2008 et l'enregistrement de votre second album, Crystal Ballroom.
Vous parliez des rencontres tout à l'heure. C'est l'une des rencontres qui vous a fait produire votre second album et continuer à être aussi inventif dans la créativité. Là, on était vraiment dans la fabrique de la musique. Hein.
Ah oui. Os, c'est vraiment un personnage. Hein. C'est,
un magicien.
Oui, c'est un magicien très bizarre qui parle très très peu, qui prend des microdoses de LSD pour mixer, qui est très solitaire, mais que j'aime vraiment énormément. Moi, j'étais dans mon adolescence un c'est même pas un fan, j'étais vraiment admiratif du travail de Tom Waits à un niveau peu imaginable. Et du coup, j'ai beaucoup étudié la manière dont il travaillait. Et pour moi, travailler avec Ausfried, c'était vraiment le Graal.
Il a travaillé avec Tom Waits, avec Iggy Pop.
Oui, c'est lui qui a fait la plupart des disques de Tom Waits. Et un jour, je l'ai contacté en lui demandant s'il accepterait de bosser avec moi. Et il était totalement ouvert à cette idée. Donc, je suis allé le rejoindre en Californie, dans le fameux studio dont il parle. Et donc, pour moi, c'était un rêve de gamin qui se réalisait. Et on a remis ça après sur l'album qui a suivi, Drone Personnel.
Et c'est quoi la chambre Tom Waits, alors?
Alors, en fait, c'est Tom Waits vit dans cette région, donc c'est en Californie. Quand il s'y est installé, si je me souviens bien, il cherchait un studio. Il a vu ce studio qui était un studio un peu banal, enfin avec des pièces assez capitonnées, etc. Donc il a dit ça m'intéresse pas du tout. Puis il a vu une vieille remise, une grange pleine de bordel. Et il est rentré dedans. Il a dit en fait c'est là qu'on va enregistrer le disque. Et donc ils ont vidé toute la remise et c'est là qu'il a enregistré parmi ses plus beaux disques comme Mule Variations, etc. Et donc c'est devenu une chambre dans laquelle on retrouve, et ça c'est vrai, hein, je l'ai vécu en vrai, toute cette couleur du son très très particulière qu'il y a sur les disques de Tom Waits, dont Oz se sert, et c'est pratiquement sa carte de visite, très souvent dès qu'il mixe un disque, quoi.
Babix, votre premier album, il est sorti en 2006, il s'appelait Babix.
Ouais. Je me suis pas foulé.
Et puis il y a eu effectivement d'autres albums derrière. On a cité Crystal Ballroom, on a cité Crystal Atomique et notamment
Automatique.
Automatique, pourquoi Atomique?
Vous l'avez bien écrit
pas, pourtant. Oui, mais vous savez, je lis pas toujours ce que j'écris. Il y a quelque chose d'inconscient. Et à chaque fois, il y a cette couleur, ce projet en fait. Il y a une forme de voilà, avec qui je vais rencontrer et qu'est-ce qu'on va faire de plus fou avec eux. On a l'impression quand on regarde comme ça un peu vos albums, il y a l'idée de défi, d'aventure, et puis aussi de se faire plaisir quand vous écrivez quand vous composez de la musique pour des poètes comme Baudelaire, Rimbaud, Genet. Mm-hmm. Voilà, vous vous amusez quand même.
Ah bah beaucoup, oui, sinon je ferais autre chose. Oui, je m'amuse beaucoup. Il y a à chaque fois l'idée qu'il y a, voilà, un album ça prend en gros allez, un an et demi à faire quand tout se passe bien. Il faut que pendant cette année et demie, on se sente vivant comme jamais, quoi. Donc c'est une espèce de voyage très très intense dans la vie et donc on essaye tous en équipe de rendre ce moment-là le plus intense, le plus marrant, le plus émouvant possible. Voilà, je pourrais pas du tout traverser ça de manière plate et calme. Il faut qu'à chaque fois, il y ait un petit peu de remous quand même.
Qu'est-ce que vous aimeriez faire, Babix, comme projet, comme ça, un petit peu un défi, comme disait Nicolas, pour un autre album ou une autre collaboration ou une autre mise en scène?
j'ai longtemps rêvé de travailler avec... avec Bob Wilson, c'était quand j'étais gamin, c'était vraiment un de mes rêves. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la rencontre avec les gens qui viennent du théâtre ou de la danse. J'ai collaboré, par exemple, avec une dame comme Germaine Aconi, qui est une immense chorégraphe sénégalaise. Et à chaque fois, ça remet tellement en cause et en question même les choses, enfin que ce soit dans l'imaginaire, mais même dans ma pratique musicale, ça me déplace beaucoup. Donc voilà, j'ai pas de nom comme ça qui me vient en tête, même s'il y en aurait probablement des milliers.
Mais même un projet, par exemple, une comédie musicale, j'ai n'importe quoi.
Voilà, une comédie musicale. Ouais. Ça, j'adorerais faire une comédie musicale. Mmh. Voilà.
Parce que ça mélange tous les arts, voilà. Toutes ces influences.
Exactement.
Et vous seriez libre de faire ce que vous voulez, en fait.
Voilà, alors ça, c'est ce que je préfère.
Mais c'est hyper dur, une comédie musicale, parce que c'est très cadré. Il y a un genre, il y a des codes à respecter.
Oui, mais comme tous les codes, ils sont faits pour être
transgressés.
Oui. Par exemple, moi, je n'avais pas du tout aimé ce film, mais malgré tout, c'est très intéressant, le film qu'avait fait Lars von Trier avec Björk.
Dancer in the Dark.
Oui, voilà. C'était malgré tout une comédie musicale, même si ça respectait aucun des codes connus de ça. Mais j'adore les comédies musicales que je redécouvre en plus là avec ma fille, je trouve ça génial.
On a l'impression que votre parcours, il est, j'allais dire, facile. En tout cas, que vous menez votre barque comme vous le souhaitez. Il y a une forme aussi chez vous, Babix, de, d'indépendance. On a parlé tout à l'heure de cette industrie, de l'idée de produire des albums, de toute cette industrie très, très marketée. Vous, vous en êtes détaché. Comment on fait en étant indépendant, en créant ses propres sociétés de production, ses propres labels?
Déjà, il a fallu s'en détacher intellectuellement. C'est-à-dire vraiment, il a fallu que je me convainc et que je sois vraiment sûr dans mon coup que cette industrie-là, je m'y reconnaissais pas et je pouvais pas faire la musique que je voulais dans ce cadre-là. Et puis ensuite créer les outils pour pouvoir accompagner ma manière de faire, mais bon voilà, qui est pas du tout probablement universelle. Mais c'est vrai que plus le temps passe, alors facile, je pourrais pas vous dire facile, parce que je pense que pour quiconque aujourd'hui qui fait de la musique de manière indépendante, c'est très très compliqué. Après, c'est facile simplement parce que je suis toujours à l'endroit que j'ai provoqué moi, et si quelque part quelque chose vient à mal se passer ou pas comme je voudrais, ça n'est imputable qu'à mes choix. Alors que quand je travaillais en maison de disques, souvent je pouvais me retrouver à un endroit où j'avais pas du tout envie d'être, mais parce qu'on l'avait décidé pour moi ou qu'on m'avait orienté vers ça. Donc oui, en tout cas, je me sens à ma place, ce qui est déjà bien dans une vie. Et après, bon, l'indépendance en musique, c'est pas un chemin facile, non.
Vous nous dites un mot de votre prochain album?
Déjà, La Marche des Enfants, début juin.
Voilà, le 7 juin.
Voilà, et puis début 2025, normalement, sortira le prochain album de chansons.
Donc là, vous reprenez la parole, en quelque
exactement,
sorte.
Exactement, exactement.
Pour nous raconter...
Bah, ça vous verrez bien.
ça veut dire que les mots
sont revenus.
Ouais, voilà, ça oui, ne vous paraît plus aussi grossier ou aussi grossi, quoi.
Non. Mais alors, en plus, c'est vrai que à chaque fois que je suis en train de travailler sur quelque chose, j'ai ce côté cancre qui fait que j'ai toujours besoin de sécher les cours. Donc, par exemple, pendant que je travaillais sur l'album de piano, il fallait que je sèche les cours et que du coup, j'aille me planquer pour écrire des chansons. Donc, j'ai toujours besoin d'un peu fuir un truc pour pouvoir en
arriver. De double projet, en fait.
Bah, même triple, parce que du coup, je me suis retrouvé à faire le piano, La Marche des Enfants et le prochain album pratiquement en même temps, quoi. Mais à chaque fois, avec cette espèce de... Je me convainc moi-même que j'ai bien réussi à... Je les ai bien eus.
Prochain album solo, donc, avec Duchamp Babic, ce sera pour 2025. Mais d'ici là, on vous retrouve sur scène dans ce spectacle Piano Piano avec le vidéaste Adrien Mondo.
Mondo, tout
je
à fait.
Je dis pas de bêtises. Et donc, votre dernier album, Une Maison, avec un piano dedans. Je vais y arriver, je vous promets. Vous serez à Antibes le 1er juin et aux Nuits de Fourvière de Lyon le 16 juin prochain. Et puis donc, l'arrivée de cet album enregistré avec la Maîtrise Populaire de l'Opéra Comique, ça s'appelle La Marche des Enfants et ça sort le 7 juin prochain.
Pour finir, Babix, en musique, nous avons choisi deux artistes qui vous ont influencé, Emma Oetsege, Mariam Gebru ou Mal Waldron. Wow. Lequel des deux souhaitez-vous écouter?
Ladies first, Emma Oy.
Oetsege, Mariam Gebru, compositrice, pianiste éthiopienne. Babix, qui est donc décédée l'année dernière à l'âge de plus de 100 ans, 101
ouais.
ans, je crois.
Ouais. Alors, une belle vie, elle aura fait la nôtre bien belle aussi, je trouve.
Merci beaucoup d'être venu dans les Midi de Culture.
Merci de m'avoir invité.
Babix, c'était un plaisir de vous rencontrer. Émission préparée par Aïssa Tounendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vigny, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delasselle. Nicolas Berger réalise cette émission. Sébastien Royer étale la prise de son. Merci Géraldine.
À demain, Nicolas. À demain. Merci.